Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore à toute la cellule de Pêche-Busque pour tous ces beaux témoignages. Ça nous encourage beaucoup à nous réunir, à garder le lien fraternel. Merci aussi aux techniciens. Je sais que toute une équipe a travaillé beaucoup hier pour qu'on puisse continuer à diffuser de mieux en mieux nos rencontres du dimanche en live. On est dans cette série sur 1 Jean depuis quelques temps. Et qu'on a intitulé « Faites-vous tester ». Faites-vous tester pour une foi authentique en Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, le test que l'on va voir, c'est « Aimer les frères ». Et on le voit dans le chapitre 3, à partir du verset 11 d'abord, et puis jusqu'à la fin du chapitre, et puis un peu plus loin, dans le chapitre 4, on reprendra quelques versets également. Et c'est le chapitre 4 qui tiendra lieu de notre message. Mais regardons chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, le message qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était un malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous n'avez aucun meurtrier, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et puis chapitre 4, à partir du verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. » et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui aime, qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On a comparé la première épître de Jean à un escalier en colimaçon parce que il aborde régulièrement, l'apôtre Jean, les mêmes thèmes, l'amour, l'obéissance, la vérité. Et à chaque fois qu'il aborde ces thèmes, il les amène encore un peu plus haut, un peu plus en profondeur. Il a déjà dit, par exemple, au chapitre 2 et au verset 7 à 11, que l'amour pour les frères est la preuve de notre communion avec Dieu, la preuve d'une marche selon dans la lumière. En chapitre 3, on vient de lire dans les versets 10 à 14 que l'amour pour les frères, c'est la preuve de notre condition d'enfant de Dieu, de fils et fille de Dieu. Et puis au chapitre 4, versets 7 à 16, nous découvrons pourquoi l'amour pour les frères est l'élément fondamental pour une foi authentique. Vous comprenez que le test d'aujourd'hui que l'on devrait passer, c'est ce test de l'amour. En 15 versets dans le chapitre 4, des versets 7 à 21, en 15 versets, le mot « amour » apparaît sous une forme ou une autre à 29 reprises. Je ne pense pas qu'il y ait un concentré d'amour plus important dans les Écritures. À 3 reprises, Jean dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Verset 7, verset 11 et verset 12. Et je pense que c'est la structure de son argumentaire. Nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu est amour, parce que Christ s'est donné à la croix et enfin parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Regardons d'abord ce premier point. Nous devons nous aimer les uns les autres parce que Dieu est amour. La source de l'amour, c'est Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres parce que l'amour est de Dieu, verset 7. Et Dieu est amour, verset 8. Dieu est à la fois la source et l'origine de l'amour. Et tout véritable amour est issu de lui. Il en résulte que quiconque aime véritablement est né de Dieu ou littéralement engendré par Dieu. Et donc il connaît Dieu. L'amour est le signe de la vraie connaissance de Dieu, de notre naissance d'en haut. Aimer, c'est nécessairement aimer Dieu, puisque Dieu est amour. Dieu est amour ne signifie pas qu'aimer est seulement une des nombreuses activités de Dieu, mais plutôt que toute activité de Dieu est une activité d'amour. Ça signifie qu'il crée par amour, il gouverne le monde par amour, il juge par et avec amour. Ainsi, nous nous faisons reconnaître comme enfants de Dieu, fils de Dieu, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et celui qui n'aime pas, verset 8, il n'a pas connu Dieu. L'amour fraternel n'est donc pas une option à prendre ou à laisser, mais elle fait partie de notre nouvelle nature. Cette nouvelle nature d'enfant de Dieu. Ne pas aimer ses frères, ce serait comme un avion qui ne peut pas voler, comme une boussole qui n'indiquerait pas le nord, ou comme un poisson qui ne saurait pas nager. Ce serait contraire à sa nature. C'est en cela que le test de l'amour est fiable. Si je n'aime pas, je n'ai pas connu Dieu. Si nous sommes nés de lui, nous portons au moins le reflet de sa nature divine. Nous lui ressemblons. Si nous le connaissons, nous connaissons son langage, et son langage, c'est l'amour. C'est l'argument principal de Jean dans toute son épître. La nature de Dieu se retrouve dans celle de ses enfants, chez ses enfants. Dieu est lumière, alors ses enfants marchent dans la lumière. Dieu est juste, et donc celui qui est né de lui pratique la justice, chapitre 2, verset 29, et chapitre 3, verset 7. Dieu est amour, celui qui aime est né de lui. Dans les versets 4 du chapitre 4, versets 19 à 21, il est dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Ainsi, le test n'est pas simplement dans l'amour que nous avons pour Dieu, mais dans l'amour que nous avons et que nous manifestons pour nos frères. Sans doute, il paraît plus facile d'aimer le Dieu qu'on ne voit pas mais dont on connaît la bonté parfaite. C'est plus facile que d'aimer notre frère dont nous ne voyons que trop bien les défauts. Mais ce n'est qu'en aimant ce frère que nous saurons que notre amour pour Dieu n'est pas purement imaginaire. On prend si facilement notre imagination pour notre cœur. On rêve d'aimer plutôt que l'on aime. Notre amour pour nos frères est d'autant plus précieux aux yeux de Dieu qu'il est le fruit d'une victoire sur nous-mêmes. Victoire remportée par l'obéissance à son commandement d'aimer nos frères. Oui, nous devrions passer ce test. Aimer nos frères parce que Dieu est amour. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres à cause de la révélation de l'amour. Dans les versets 9 à 11, on voit que Christ s'est donné pour nous. C'est notre deuxième point. L'amour de Dieu, l'amour dont nous devons nous aimer les uns les autres, a été révélé dans le don de son Fils unique pour nous, pour que nous vivions. Regardez au verset 10, Jean dit que ce n'est pas notre amour qui est le premier, mais c'est celui de Dieu. Et tout notre amour n'est que le reflet de l'amour de Dieu. Une réponse au sien, comme il le dit aussi au verset 19. Ça signifie que mieux nous comprenons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, mieux nous aimons. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, comme victime expiatoire pour nos péchés, verset 10, afin que nous vivions par lui, verset 9. La grandeur de l'amour de Dieu se voit donc premièrement dans la grandeur de celui qui est donné. Celui qui est donné, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers. C'est Jésus-Christ, le Dieu éternel, le Fils unique, le bien-aimé du Père, le seul juste, l'image du Dieu invisible. John Stott commente en disant « Un don plus grand de Dieu est inconcevable ». Parce qu'un don plus grand n'est pas possible. Dieu a donné ce qu'il y avait le plus précieux dans l'univers. Et la grandeur de son amour se voit également dans le sacrifice consenti. Ce n'est pas l'incarnation, mais l'expiation qui est la manifestation suprême de l'amour. Dans le chapitre 3 et au verset 16, il est dit « Nous avons connu l'amour ». En ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est la mort de Christ pour nous, à la croix, qui nous révèle la grandeur de son amour. On voit l'amour de Dieu au sacrifice, à l'abaissement, à la mort consentie. La grandeur de son amour se voit aussi dans les objets de son amour. Il nous a aimés et a envoyé son Fils pour nous sauver, non pas parce que nous étions un tant soit peu dignes de son amour, mais parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime. Paul le dit dans sa lettre à Tite, au chapitre 3 et au verset 3 à 5, il dit « Nous étions autrefois insensés, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a aimés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » La grandeur de son amour se voit donc dans le prix élevé de son propre sacrifice pour ceux qui en sont tout à fait indignes. L'essence de l'amour, c'est le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi consenti par Jésus-Christ n'est pas simplement une révélation à admirer, mais un exemple à imiter. Il dit au chapitre 4, verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le véritable amour ne se révèle pas uniquement dans le sacrifice suprême. J'imagine que si on interrogeait les hommes de notre Église, chacun dirait « Oui, je suis prêt à mourir pour ma femme !» La chose, c'est que ils en auront probablement jamais l'occasion. Mais la grandeur de notre amour se voit dans les petits sacrifices, dans les petits dons de soi, dans les petites choses qui nous mettent à mort dans notre quotidien. Dans quelle mesure nos actes montrent-ils que nous nous aimons les uns les autres? Dans quelle mesure nos actes d'amour sont manifestés envers des personnes qui ne sont pas particulièrement aimables? Sommes-nous aussi généreux que nous pourrions l'être avec notre argent, nos biens, notre temps? La révélation de l'amour de Dieu dans la personne de Jésus-Christ crucifié nous place dans une obligation. Verset 11, nous devons nous aimer les uns les autres. Je relève quelques aspects pratiques pour nous. Tout d'abord que Dieu n'a pas aimé en parole seulement, mais en action. Et il a envoyé son action, c'était qu'il a envoyé et livré son Fils. L'amour, ce n'est pas que des mots. Au chapitre 3, au verset 17 et 18, il est dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Si nous disons à notre frère « Oh, Dieu t'assiste, mon ami !» ou « Que Dieu te bénisse, mon frère !» Que Dieu te secoure lorsqu'il vient vers nous parce qu'il a un besoin. Nous échouons au test. C'est par nous que Dieu veut assister le pauvre. Il veut que nous l'assistions pour notre bien, pour que nous lui ressemblions. Dieu nous envoie un pauvre et nous le renvoyons vers Dieu. C'est un scandale. Cette semaine, on a eu à faire les obsèques de Henri Beau. Le témoignage d'amour fraternel qu'il a laissé dans les mémoires, ce n'est pas seulement des mots, ni même un sourire large, mais ce sont des œuvres, du temps passé avec les frères, des sacrifices consentis. Des finances qui ont été données, de la sueur qui a coulé. La deuxième chose, c'est que l'amour de Dieu est sans contrepartie. Il répond aux besoins de l'autre. Dieu est amour de toute éternité. Il est parfaitement juste de toute éternité. Il n'avait pas besoin de sauver des pécheurs tels que nous pour lui-même. Il nous a aimés pour que nous partagions sa gloire. Aimer, selon Dieu, c'est prendre l'intérêt de l'autre à cœur. Comment pouvons-nous aimer les autres? Eh bien, en les servant, sans aucune pensée d'être payé en retour. Pas pour ce qu'ils pourraient nous apporter, nous donner en retour. Pas pour apaiser notre conscience. Pas pour satisfaire nos émotions. Pas pour s'attirer des honneurs. Mais parce que nous avons été aimés de la sorte. Enfin, le véritable amour est sacrificiel. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus nous a aimés en s'offrant en sacrifice pour nous sauver. L'acte suprême d'amour consiste à nous donner nous-mêmes pour les autres. L'amour, c'est l'empressement à abandonner ce qui a de la valeur pour notre vie afin d'enrichir les autres. Parfois, ce qui nous est précieux, c'est notre confort, c'est nos moyens, notre temps ou notre tranquillité. Lorsqu'on me sollicite pour un bien matériel et que je donne ce qui m'encombre dans mon garage ou dans mon grenier, je n'aime pas en fait. Je n'ai consenti aucun sacrifice. Celui qui aime, c'est celui qui reçoit, en l'occurrence, parce qu'il me débarrasse. Et j'ai honte parce que j'ai souvent agi comme cela. Qu'est-ce que l'on est prêt à sacrifier? Pas de sacrifice, pas d'amour. La haine de Caïn l'a conduit au meurtre. L'amour de Christ l'a conduit au sacrifice. Haïr, c'est tuer l'autre. Aimer, c'est nous sacrifier pour l'autre. Enfin, nous devons nous aimer les uns les autres parce que le Saint-Esprit en nous demeure. Et lui, il nous donne la force d'aimer. On voit ça dans les versets 12 à 16. Dieu a implanté son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous devenons chrétiens, c'est-à-dire lorsque nous nous repentons de nos fautes, que nous croyons en Jésus-Christ, venu payer pour nos fautes, nous recevons le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force, la capacité d'aimer. Ce n'est pas simplement que Dieu nous dit qu'il nous aime ou qu'il nous montre comment il nous aime, mais il nous met dans le cœur la capacité, la possibilité d'aimer à notre tour. Il nous rend participants de sa nature divine parce qu'il vient faire sa demeure dans notre vie, dans notre cœur. Si personne n'a jamais vu Dieu, comment pouvons-nous le connaître? Dans l'évangile de Jean, Jean souligne que c'est possible grâce à Jésus. Au chapitre 1 et au verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et ici, dans son épître, sa première épître, il nous dit que lorsque nous aimons les uns les autres, verset 12, « Le Dieu invisible est révélé parfaitement au travers de nous. » Dieu est amour, lorsque nous aimons les uns les autres, le monde le voit. Dans notre passage, Jean évoque trois bénédictions liées à l'amour qui demeure en nous par le Saint-Esprit. Je voudrais les relever rapidement. Tout d'abord, l'assurance face au jugement. On voit ça dans le chapitre 4, versets 17 et 18. Il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Alors, quand on aime, nous avons la joie, nous avons la paix avec nos proches, nous jouissons au fond de la communion avec Dieu. C'est comme si le sourire de Dieu est sur nous. Au chapitre 3 et au verset 19, il évoque le fait que parfois notre cœur n'aime pas comme nous devrions aimer et nous condamne. Et là, il rappelle que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Au fond, il nous invite ici non pas à ignorer les accusations de notre propre conscience. En justifiant notre comportement, chose que l'on fait fréquemment, mais plutôt à fixer notre cœur sur l'amour de Dieu. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu connaît notre faiblesse, il sait ce que nous sommes. Cette semaine, nous avons accompagné donc Henri Beau. Nous l'avons vu alité, affaibli. Mais avec tellement de mal aussi à parler. Mais il a manifesté une pleine confiance en Dieu. Il a manifesté une belle assurance devant la mort. notre assurance, elle ne provient pas de l'amour que nous avons pour Dieu ou que l'amour que nous avons pour nos frères. Mais notre assurance provient de l'amour que Dieu a eu envers nous. Mais l'amour que nous avons manifesté atteste que nous avons connu l'amour de Dieu. Et c'est cela qui nous rassure. C'est cela le test qui nous rassure. La deuxième bénédiction qui est liée, c'est l'assurance dans la prière. Au chapitre 3 et au verset 21, il dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Quand nous nous aimons les uns les autres, nous sommes en communion avec Dieu, nous marchons dans sa volonté, ce qui nous donne de l'assurance dans la prière, parce que nous demandons ce qui lui est agréable, c'est-à-dire ce qu'il veut accomplir par nous. L'apôtre Pierre évoque cela, cette pensée, lorsqu'il demande aux maris d'aimer leur femme, afin que rien ne vienne faire obstacle à leur prière, chapitre 3, verset 7. Bien entendu, l'obéissance, c'est la condition indispensable dans la prière. Mais elle n'est pas la cause méritoire de notre exaucement. La cause méritoire de notre exaucement, c'est Christ. Ce qu'il rappelle d'ailleurs au verset suivant, verset 23. C'est quoi obéir? C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions nos frères. Enfin, une grande bénédiction donnée par le Saint-Esprit, c'est au verset 12. C'est le témoignage devant les hommes. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Son amour est rendu visible au monde. Nous cherchons à atteindre le monde avec l'Évangile. Et le monde qui nous est cher, c'est certainement nos enfants. C'est nos voisins, nos collègues, nos amis, notre famille, ceux qui nous voient vivre au fond. Nous pouvons leur montrer le Dieu invisible par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je crois que c'est C.S. Lewis qui a dit que l'Église est l'argument final de Dieu au monde sceptique, parce qu'en l'Église, le monde voit une unité qui dépasse le raisonnement. Vous avez vu dans l'actualité comme moi que les communautés se dressent les unes contre les autres. Les actes de racisme qui sont manifestés. C'est normal parce que le racisme, c'est dans le cœur de l'homme, de chaque homme. Mais il ne peut pas en être ainsi dans l'Église. À cause du Saint-Esprit qui est venu dans notre cœur, à cause de la transformation de notre vie, à cause de son œuvre qui arrache le péché de nos cœurs, à cause de ce qu'il est venu pour défaire les œuvres du diable, Jésus change nos cœurs et nous amène à nous aimer les uns les autres. Excusez-moi. Dans l'Église, les relations humaines d'amour vont supplanter toutes ces différences communautaires, toute cette opposition les uns envers les autres. Au contraire, l'amour, l'accueil, l'unité viennent lorsque nous reconnaissons que Dieu nous aime tous de la même manière. Et qu'il nous a accueillis non sur la base de notre ethnie, non sur la base de notre statut social, non sur la base de notre réussite morale, mais par pure grâce. Ainsi, l'Église devient comme un avant-poste, une ambassade du ciel, qui offre au monde ici-bas un aperçu du royaume de paix, d'harmonie et de justice auquel Dieu destine son peuple. Une ambassade, elle est régie par les lois du pays qu'elle représente. Nous sommes du ciel, nous sommes concitoyens des cieux, nous sommes enfants de Dieu. Notre Église, l'Église reflète l'ambassade du ciel, elle est gouvernée par les principes du ciel. Et les principes qui régissent le ciel, c'est l'amour les uns pour les autres. Un de nos frères de l'Église est aveugle. Croyez-vous que quand vous venez le saluer, c'est la couleur de votre peau qu'il voit ? Non, c'est le son de votre voix. C'est l'intérêt que vous lui portez qui le touche. Dans l'Église, on ne peut pas regarder à l'aspect. On regarde au cœur. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la couleur de votre pouce dans vos messages ? Twitter, WhatsApp. Quand vous likez quelque chose, c'est quoi la couleur de votre pouce ? À l'origine, le pouce était jaune. Et puis le pouce est devenu noir pour certains. Et puis blanc. Et puis marron. Et puis marron clair. Et chaque fois qu'on amène notre pouce, on dit « Je suis noir. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis blanc. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas africain. Hein. Non, je suis antillais. T'as vu la couleur de mon pouce ? Moi, je suis pas antillais, je suis métisse. Notre identité n'est pas dans la couleur de notre pouce. Notre identité est en Jésus-Christ. C'est très important. C'est très important parce que nous montons les uns contre les autres avec ces choses-là. Et dans l'Église, il ne peut pas en être ainsi. L'amour que nous sommes appelés à vivre dans l'Église défie la raison humaine. L'amour que nous sommes appelés à manifester dans l'Église dépasse largement ce que le cœur naturel de l'homme est capable de faire. C'est l'amour de Dieu, le véritable. C'est celui auquel les hommes et les femmes de ce monde aspirent, ne connaissent pas, mais ils aspirent, ils aimeraient que ça existe. Et quand ils viennent dans l'Église, s'ils peuvent voir cela, cet amour-là, ils seront saisis, ils croiront que Dieu a changé nos vies, nos cœurs. Voilà le test, mes frères et sœurs. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Jean écrit dans le but que les chrétiens lecteurs de sa lettre reconnaissent dans leur cœur l'amour de Dieu et qu'ils soient rassurés. J'espère que, au travers de cet épître, vous êtes rassurés. Que chaque test que vous passez vous rassure. Vous voyez bien que votre cœur a été changé. Vous êtes enfant de Dieu. Et s'il y a du trouble dans votre cœur, regardez à Jésus-Christ. Il est plus grand que notre cœur. Recevons son pardon et que Dieu, par son esprit, vienne nous remplir nos cœurs d'un amour sincère. Un amour fraternel authentique. Que Dieu nous aide. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier pour la grandeur de l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Merci parce que de toute éternité tu aimes. Tu es amour. Tu nous as manifesté la grandeur de ton amour en envoyant Jésus-Christ mourir à notre place. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, parce que tu as placé l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, Seigneur, dans notre cœur, et que nous pouvons être rendus capables d'aimer à notre tour. Merci, Seigneur, pour cela. Et nous te prions que tu pardonnes, Seigneur, toutes les fois où nous avons manqué le test, toutes les fois où nous sommes déficients, Seigneur, dans ce domaine. Et nous te demandons de nous attirer à toi, de nous permettre de regarder à toi pour que nous connaissions la grandeur de ton amour et que nous le reflétions à nouveau dans nos vies. Viens à notre secours par Jésus-Christ. Amen. Amen. J'enlève le public.